Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Emmanuel Macron reprend sa liberté. Le ministre de l'économie quitte le gouvernement pour se consacrer à son mouvement En Marche. Et puis, à l'outre-mer, Georges Pollenfmin démissionne, elle aussi, pour raisons personnelles. Analyse dans un instant de Stéphane Robert et Ludovic Piétenu du service politique de France Culture. Le MEDEF en campagne. Les candidats à l'élection présidentielle doivent se fixer pour objectif d'atteindre une croissance forte associée au plein emploi, déclare Pierre Gattaz à l'Université d'été de l'organisation patronale. Accord sur le prix du lait, Lactalis accepte de mieux rémunérer les producteurs de lait et la FNSEA appelle ses militants à cesser leurs actions. Nous ferons le point avec Anne Lamotte. Enfin, Apple doit rembourser plus de 13 milliards d'euros à l'Irlande. C'est une nouvelle étape dans l'offensive de la Commission européenne contre l'évasion fiscale. Analyse de Pierre Benazet. Ça n'est pas vraiment une surprise. Les rumeurs allaient bon train depuis qu'Emmanuel Macron avait créé son mouvement En Marche au mois d'avril. Mais cette fois, il passe à l'acte. Le ministre de l'économie choisit de démissionner. L'information a été officialisée il y a une heure par l'Élysée. Les positions d'Emmanuel Macron avaient souvent heurté la gauche et l'ancien banquier d'affaires s'émancipait un peu trop au goût du chef du gouvernement, Manuel Valls. Mais quelles sont au juste ses intentions, Stéphane Robert?
Alors pour le moment, Emmanuel Macron n'a pas de plan de bataille bien précis. Rien n'est arrêté pour celui qui est désormais l'ex-ministre de l'économie de François Hollande, parce que cette démission n'est en fait qu'une demi-émancipation, en tout cas pour l'instant. C'est simplement une manière pour Macron de ne pas insulter l'avenir et de se tenir prêt au cas où François Hollande ne serait pas en mesure de se représenter. D'ailleurs, il a toujours dit qu'il ne serait pas candidat contre François Hollande, et ça encore très récemment. En revanche, il se positionne clairement comme un recours potentiel en lieu et place de Manuel Valls, avec qui la rivalité n'a fait que grandir au fil des mois. Donc, si jamais Emmanuel Macron devait se déclarer candidat pour 2017, ce ne serait vraisemblablement pas avant la fin de l'année, moment choisi par l'actuel président pour annoncer s'il est candidat ou non à sa propre succession. Ceci dit, cette démission d'Emmanuel Macron n'est pas non plus sans conséquence, sans gravité pour François Hollande, car il y avait déjà deux anciens ministres du gouvernement, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, eux candidats déclarés pour 2017, l'un dans le cadre de la primaire, l'autre en dehors. Ces deux-là représentent une sensibilité plus à gauche que celle qu'incarne François Hollande. Emmanuel Macron, lui, incarne l'autre versant, le courant plus à droite, plus libéral. Et en quittant le gouvernement, il accentue cette impression que l'actuel président est de plus en plus fragilisé, qu'il est assis sur une majorité de plus en plus étroite. Il montre en quelque sorte que le roi est nu, ou presque. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il n'est qu'à voir l'embarras de l'Élysée qui, il y a quelques minutes, a tenté de justifier la démission du ministre en expliquant qu'il voulait désormais s'occuper de son mouvement politique En Marche.
Le départ d'Emmanuel Macron renforce encore l'incertitude à gauche dans la perspective de l'élection présidentielle de 2017. Et puis, il faut aussi gérer un mini-remaniement, Ludovic Piétenu, puisqu'il faut donc remplacer Emmanuel Macron par Michel Sapin, mais aussi Georges Pau Langevin, qui part, nous dit l'Élysée, pour raisons personnelles.
C'est un mini-remaniement. Ce sont deux ministres qui sortent ce soir du gouvernement, Emmanuel Macron et Georges Pau Langevin, respectivement au 13e et 18e rang protocolaire dans la composition du gouvernement. Tout ministre de l'économie qu'il était, l'ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée, Emmanuel Macron, n'avait pas été placé au sommet de la hiérarchie gouvernementale. François Hollande et Manuel Valls avaient préféré privilégier les proches, les amis de 30 ans. C'est d'ailleurs le fonctionnement qui prévaut dans la tête du chef de l'État pour la succession. À Bercy, il avait très clairement ce soir deux options. Élargir le portefeuille de l'ami, du fidèle d'Argenton-sur-Creuse, Michel Sapin, ce qu'il a choisi de faire. Ou bien il pouvait défendre un choix plus politique. Et l'on murmurait le nom du secrétaire d'État au commerce extérieur, Mathias Fekel, marqué à gauche, à la une aujourd'hui encore dans son combat contre le traité transatlantique. C'est exactement ce qui s'était passé il y a six mois lors du précédent remaniement, quand Laurent Fabius avait quitté le Quai d'Orsay pour rejoindre la présidence du Conseil constitutionnel. François Hollande avait fait le choix, là encore, de la proximité, de l'amitié, en nommant Jean-Marc Ayrault et non le jeune Mathias Fekel. Le choix aussi défend-on ce soir du côté de l'Élysée de l'efficacité avec un Michel Sapin à l'économie et aux finances. C'est un pilote unique à Bercy. L'autre changement, vous l'avez dit, c'est la ministre de l'Outre-mer que l'on savait fatiguée par sa mission, son engagement politique. Georges Pau Langevin quitte l'équipe, dit sobrement l'Élysée, pour des raisons personnelles. Georges Pau Langevin était au gouvernement depuis le début, depuis 4 ans. Elle est remplacée par Erika Barretz, nommée en février dernier secrétaire d'État à l'égalité réelle. C'est elle qui va porter ces prochains mois le projet de loi égalité réelle, dans lequel il est question d'outre-mer, d'égalité entre les territoires. Il y a donc là aussi ce soir un choix à la fois pratique, gage de cohérence aussi et d'efficacité pour les 8 derniers mois de la vie de ce gouvernement avant la présidentielle.
Merci Ludovic Piétenu. Le ministre de l'économie quitte le navire le jour d'ouverture de l'université d'été du MEDEF et le jour de la conférence de presse de rentrée de la CGT. Annabelle Grelier, vous avez écouté Philippe Martinez, le secrétaire général de la centrale. Il a redit la la détermination de son syndicat à faire tomber la loi travail et il a accueilli avec une certaine ironie la nouvelle du départ d'Emmanuel Macron.
Il ne s'est pas beaucoup occupé de l'industrie, il ne s'est pas beaucoup occupé des Français, sauf parfois pour les insulter, les traiter d'illettrés. Il a d'abord pensé à sa carrière personnelle. Je pense que sa démission en est le symbole.
Symbole également d'une dérive libérale, Emmanuel Macron ne manquera pas à la CGT, c'est sûr. Le syndicat qui réclame toujours l'abrogation de la loi travail assure que le combat n'est pas terminé. Philippe Martinez.
Nous allons continuer à nous battre dans la rue, mais aussi sur le terrain juridique. Et puis, nous allons évidemment être très vigilants à chaque publication de décret, parce qu'il arrive parfois que des décrets aillent plus loin que ce qu'on a écrit dans la loi. Et puis, à chaque décret que nous jugerons contestable, eh bien, nous envisagerons toutes les possibilités de contester et de ne pas faire appliquer ces décrets.
Journée d'action et manifestations sont déjà programmées pour le 15 septembre. Pour la CGT, cette année doit être celle du rassemblement syndical, y compris avec la CFDT, pour que les questions sociales soient au cœur de la campagne présidentielle. Une campagne qui sent déjà mauvais pour Philippe Martinez.
Quand on stigmatise des personnes pour leur tenue sur une plage, on cible une catégorie de citoyens français et c'est la porte ouverte à toute la surenchère sécuritaire. Or, c'est ce qu'on voit. Et on entend des choses nauséabondes. Certains parlent de parquet des individus. Enfin, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. On veut conditionner la vie des Français, mais les préoccupations, elles sont pas là.
Au programme de cette rentrée, des meetings au Havre cette semaine, à Nantes le 7 septembre, opération de péage gratuit, débat le 10 septembre lors de la fête de l'humanité, où se sont invités les responsables de la CGT, la FSU solidaire, mais aussi, fait exceptionnel, Force ouvrière.
Rentrée aussi pour le MEDEF, dont l'université d'été s'est ouverte à Jouy-en-Josas dans les Yvelines. On attend la visite des futurs candidats à l'élection présidentielle. En les attendant, Pierre Gattaz se positionne. Pour le président de l'organisation patronale, il faut se fixer pour objectif le retour à une forte croissance associée au plein emploi. C'est bien ça, Jean-Marc Chardon ?
Et oui, en effet, de la part de Pierre Gattaz, c'est un appel à tous les candidats à l'élection présidentielle à s'inspirer tout simplement d'un programme économique aux couleurs du MEDEF. Alors ce programme, il tient en trois points. Faire un choix, celui de la croissance et du plein emploi. Installer l'entreprise au centre de l'équation et puis engager une série de réformes, avant tout fiscales et sociales. Alors l'essentiel n'étant pas de lister ces projets, les idées sont connues, mais dans l'esprit du MEDEF, c'est la résolution qui compte, la détermination des candidats à aller jusqu'au bout de ces réformes. Pour le président de l'organisation patronale, les réformes engagées jusqu'à présent sous le quinquennat, eh bien, elles sont incomplètes, quand bien même elles vont dans le bon sens. On est au milieu du guet sur Pierre Gattaz, qui ajoute que les réformes ne peuvent réussir qu'à deux conditions, la confiance, ce qui suppose une vraie stabilité fiscale, et puis aussi un encouragement à la prise de risque. Voilà donc les ingrédients qui constituent la potion économique pour, dit le MEDEF, sortir des 30 piteuses, les trois dernières décennies économiques et construites. Les 30 audacieuses formules de nouveau à la Gattaz qui vise 2 à 3% de croissance pour parvenir au plein emploi. Le plein emploi, c'est comme cela que le patron du MEDEF peut justifier son objectif de créer 2 millions d'emplois.
Merci Jean-Marc Chardon, en direct de l'université du MEDEF. C'est la fin du bras de fer entre les producteurs de lait et Lactalis. Ils sont tombés d'accord sur le prix d'achat de la tonne de lait. Les négociations ont abouti ce matin à la préfecture de Mayenne et les éleveurs ont obtenu satisfaction. Le compte-rendu d'Anne Lamotte à Laval.
290 euros, c'est le prix qu'accepte de payer désormais Lactalis aux producteurs pour 1000 litres de lait. 290 euros en moyenne d'ici à la fin de l'année, c'est 30 euros de plus qu'aujourd'hui et le minimum que réclamaient les syndicats. Alors bien sûr, pas de baguette magique, cela ne va pas combler les déficits de nos exploitations, reconnaissent les producteurs, mais ils parlent tout de même de signes forts et la FDSEA, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, applaudit. On a quand même fait plier Lactalis numéro 1 mondial des produits laitier, se félicite son président Philippe Géant. Lactalis, dont le porte-parole Michel Nallet affiche aussi un large sourire, peut-être de soulagement. On voulait trouver une solution commune pour sortir de cette crise. C'est fait, déclare-t-il. Quant au ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, lui aussi serait content. Je l'ai eu au téléphone, explique le préfet de la Mayenne, Frédéric Vaux, et il se réjouit que tout se termine sans violence ni dégradation.
La FNSEA a donc appelé les agriculteurs à mettre fin à leurs opérations sur le terrain. Mais pour Sébastien Hamant, producteur de lait, et l'un des négociateurs, cet accord avec Lactalis n'est qu'un tout premier pas, écoutez-le.
Les enjeux maintenant sont au-delà de l'entreprise Lactalis. On l'a beaucoup évoqué ces dernières semaines, les difficultés que rencontrent aujourd'hui les producteurs laitiers font qu'à l'échelon national, côté du gouvernement, mais aussi à l'échelon européen, il va falloir qu'on ait aussi une mobilisation forte pour pouvoir remettre en place un certain nombre d'outils de régulation ou de maîtrise du marché qui nous évitent à nous, les producteurs de lait, de se retrouver dans des situations économiques pénibles et difficiles que celles qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Le producteur de lait, Sébastien Amand. C'était la première ville à avoir pris un arrêté anti-Burkini fin juillet, mais l'arrêté n'est plus valable dans la ville de Cannes. Le tribunal administratif de Nice s'est conformé à la décision du Conseil d'État, revenant ainsi sur ses propres arguments, puisque c'est ce même tribunal, Florence Turme, qui avait soutenu l'arrêté de Villeneuve-Loubert.
Oui, c'est avant tout une décision symbolique, puisque l'arrêté de Cannes, le premier à s'opposer au port du Burkini sur les plages, venait à expiration demain. Mais cela reste une victoire symbolique pour la Ligue des droits de l'homme et le collectif contre l'islamophobie en France, qui avait plaidé l'affaire devant la justice administrative de Nice jeudi dernier, à la veille de la décision du Conseil d'État. Une décision dont le tribunal a pris acte. Il estime aujourd'hui qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté et que celui-ci méconnaît la liberté d'aller et venir, de conscience et de pensée, mot pour mot, le point essentiel développé par les sages, et tout le contraire de l'argumentaire précédent où les juges niçois jugeaient l'interdiction nécessaire, adaptée et proportionnée. Le maire, les Républicains de Cannes, n'entend pas contester cette nouvelle décision, tout comme Lionel Lucas, le député-maire de Villeneuve-Loubet, avait dit se conformer à la décision du Conseil d'État. En revanche, d'autres communes de la Côte d'Azur ont maintenu leurs arrêtés anti-Burkini et 4 d'entre elles se retrouvent assignées en justice, notamment Fréjus. L'audience s'est déroulée ce matin au tribunal administratif de Toulon cette fois, et l'avocat de la ville gouverné par le Front National a mis en avant le particularisme fréjussien, les tensions nées de la polémique autour de l'ouverture récente d'une mosquée construite sans permis valable. La décision sera rendue d'ici 48 heures, mais ce serait une véritable surprise si Toulon ne se rangeait pas à l'avis du Conseil d'État et au nouvel habillage juridique de ses collèges niçois.
Merci Florence Thurm. Apple doit rembourser à l'Irlande plus de 13 milliards d'euros. À l'issue de 3 ans d'enquête, la Commission européenne a estimé que les avantages fiscaux accordés par le gouvernement irlandais constituaient des aides illégales qui ont permis à Apple d'éviter l'impôt sur pratiquement l'intégralité des bénéfices générés par ses ventes dans le marché unique européen. Le groupe américain et Dublin ont aussitôt annoncé qu'ils feraient appel. Peu importe, la Commission européenne veut envoyer un message de fermeté. L'analyse de Pierre Benazet à Bruxelles.
En annonçant le montant faramineux de 13 milliards d'euros que l'Irlande se voit sommée de réclamer à Apple, la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, a bien insisté sur le fait qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une amende, mais bien d'un arriéré d'impôt. Les amendes records ne manquent pas dans l'histoire récente des décisions des autorités européennes chargées de la concurrence. On peut penser par exemple à Google, qui s'est trouvé ces 18 derniers mois dans le collimateur des services de Margrethe Vestager. Elle est en passe de s'imposer comme un des poids lourds de la Commission européenne, elle qui ne craint pas de s'attaquer aux pratiques fiscales des pays de l'UE et aux grandes multinationales comme Fiat, Starbucks ou même Gazprom. Et c'est bien ce dont il s'agit aujourd'hui avec Apple, nouvelle étape dans l'offensive tous azimuts lancée contre l'évasion fiscale. Il y a déjà eu Fiat au Luxembourg, Starbucks aux Pays-Bas et à chaque fois, les gouvernements ont été sommés de réclamer des arriérés d'impôts considérables. La décision au sujet d'Apple entraînera peut-être aussi le départ d'Irlande de bon nombre de multinationales, mais la Commission européenne prévient qu'elle examine actuellement 1 millier d'autres accords fiscaux ailleurs dans l'Union, dont par exemple McDonald's et Amazon au Luxembourg. Les LuxLeaks, qui avaient pointé du doigt les rescrits fiscaux accordés par le Luxembourg à des multinationales, datent des premiers jours de la prise de fonction de l'actuelle Commission européenne. Et l'idée selon laquelle la justice fiscale veut que les profits soient taxés dans les pays où ils sont dégagés est en train d'être érigée en principe, un principe qui a pour ambition de faire fléchir les États européens.
Le Trésor américain a réagi au sujet d'Apple. Cette décision pourrait menacer les investissements étrangers, le climat des affaires en Europe et l'important esprit de partenariat économique entre les États-Unis et l'Union européenne, déclare Washington. Autre sujet de discorde entre Europe et États-Unis, le projet de traité transatlantique de libre-échange. La France a prévenu aujourd'hui qu'elle ne croyait plus à un accord avant la fin du mandat Obama et qu'elle souhaitait l'arrêt des négociations. L'annonce suscite pour l'instant peu de commentaires aux États-Unis. Les négociations continuent, dit simplement la Maison-Blanche. La correspondance de Pierre-Yves Dugas à Washington.
Apple est le plus gros contribuable en Irlande, le plus gros contribuable aux États-Unis et le plus gros contribuable dans le monde, explique outré Luca Maestri, le directeur financier du géant californien. Monsieur Maestri juge que la Commission européenne s'est complètement trompée dans ses calculs, que son interprétation de ses prérogatives viole la souveraineté de l'Irlande et risque d'avoir des conséquences dévastatrices pour l'économie européenne en incitant les multinationales à ne pas s'implanter en Europe. Apple, tout comme le gouvernement irlandais, se pourvoit en appel. La somme exigée par la Commission européenne ne représente que 2 trimestres des bénéfices actuels d'Apple.
Malheureusement, ça n'est pas le sujet que nous espérions de Pierre-Yves Dugas. Nous y reviendrons prochainement. En Syrie, une trêve a été conclue entre l'armée turque et les rebelles du conseil militaire de Jarablus, soutenu par les Kurdes, c'est ce que déclare un responsable américain. Information confirmée par les forces démocratiques syriennes, mais nuancée par un chef rebelle syrien soutenu par Ankara, selon qui c'est seulement une pause dans les opérations militaires. La météo favorable pousse les migrants à tenter la traversée de la Méditerranée. En ce début de semaine, les gardes-côtes italiens multiplient les opérations de secours au large de la Libye. Hier, quelques 6500 personnes ont dû être secourues. Les précisions de Xavier Sartre à Rome.
Avec le retour du beau temps et des vents de sud dans le canal de Sicile, les passeurs et autres trafiquants de migrants ont repris leur sinistre besogne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 1100 personnes sauvées dimanche, 6500 lundi et sans doute encore plusieurs centaines voire milliers aujourd'hui. Les bateaux des gardes-côtes italiens, ceux de la marine italienne et les navires européens des opérations Frontex et Sophia ne cessent de secourir des embarcations de fortune qui ont à peine quitté les eaux libyennes. À leur bord, entassés dans des conditions inhumaines, des centaines d'Africains, le plus souvent originaires de l'ouest du continent ou de l'est. Pour prêter main forte aux navires des États européens, ceux d'ONG comme MSF ou Proactiva Open Arms. Une fois recueillis, ces migrants rejoignent des ports italiens de Sicile, de Sardaigne ou du sud de la péninsule. Palerme attend ainsi mercredi l'arrivée de 1273 personnes. Face à un tel afflux, la lutte contre les passeurs reste une priorité. La police de Reggio Calabria, à l'extrême sud de l'Italie, a arrêté et incarcéré un homme de 38 ans, originaire de Somalie, suspecté d'avoir piloté une embarcation avec à son bord plus de 300 personnes. Ces dernières auraient donné 4000 dollars à leurs passeurs en Libye avant de partir. Le trafic de migrants, avec le beau temps, se porte bien.
La météo favorable pousse les migrants à tenter la traversée de la Méditerranée. Et en France, la jungle de Calais n'en finit pas de grossir. L'association France Terre d'Asile se préoccupe plus précisément du sort des mineurs isolés. Elle en a recensé 861 fin août contre 321 en février. La plupart souhaitent rester en France, mais ils en payent le prix, selon Pierre Henry, le président de France Terre d'Asile, car leur jeune âge les précarise davantage.
Il y a des situations extraordinairement précaires. Et au jour le jour, il faut se débrouiller pour à la fois se lever, manger, et éventuellement apprendre des bribes de français. Donc le fait même d'être mineur peut les rendre plus fragiles et sont des proies faciles pour un certain nombre de passeurs. Danger d'exploitation, évidemment par les réseaux de passeurs qui sont présents sur le site de Calais, les réseaux d'exploitation sexuelle, le cas échéant. Mais je veux aussi être très prudent parce que je ne peux m'exprimer sur ce sujet que lorsque les situations sont parfaitement documentées. Sur le bidonville de Calais, vous avez entre 7 et 9 000 personnes, dont 862 mineurs. La situation, elle est redoutable pour tout le monde. Et bien évidemment que dans une situation de pénurie et de surpopulation, les mineurs ne sont pas particulièrement protégés de ces violences. La situation est très préoccupante et c'est la raison pour laquelle nous demandons une répartition équilibrée sur l'ensemble du territoire de ces jeunes gens.
Pierre Henry de France Terre d'Asile répondait à Willy Moreau. L'Ouzbékistan dans l'incertitude. Hier, on apprenait que le président Islam Karimov se trouvait en réanimation après une hémorragie cérébrale. Depuis Bruno Kaden, les rumeurs se succèdent, illustrant un climat de fébrilité dans le pays.
La mort d'Islam Karimov n'a pas été confirmée par les autorités ouzbèques et le Kremlin annonce ne pas avoir d'informations à ce sujet. Mais des sites d'information de l'opposition ouzbèque en exil et des agences de presse de l'ex-URSS affirment que l'autocrate est décédé. Quoi qu'il en soit, l'ambiance en Ouzbékistan est à la fin de règne. Les festivités des 25 ans de l'indépendance du pays, prévues le 1er septembre, ont été purement et simplement annulées et les accès à la capitale Tachkent ont été fermés. Ce qui semble confirmer et que la guerre de succession a débuté et fait rage. D'ailleurs, toujours sur les sites d'opposition, une rumeur fait état du placement en résidence surveillée de l'un des principaux candidats à cette succession, le vice-premier ministre en charge particulièrement des finances, Roustam Azimov, un homme clé dans le contrôle de l'économie, des banques et des privatisations. L'autre favori serait le premier ministre, Shavkat Mirziyoyev. Mais derrière ces prétendants se cache une véritable guerre des clans entre les services de sécurité, la police ou les services secrets, et entre ceux qui sont originaires de Tashkent, la capitale, et ceux de Samarkand, la ville d'origine d'Islam Karimov. La Constitution prévoit que c'est le président du Sénat qui assure l'intérim, mais la vraie bataille pour le pouvoir se déroule dans l'ombre, et comme dans tout régime autocratique, c'est certainement lorsqu'il y aura un vainqueur que la mort du président sera officiellement annoncée.
La météo, un temps chaud et ensoleillé demain, exception faite du sud-est où le ciel sera nuageux avec des averses. Les températures seront au-dessus des normales saisonnières, entre 21 et 32 degrés l'après-midi.